France Info.
Il faut un plan massif dans les ports et les aéroports pour lutter contre la criminalité organisée et le narcotrafic. C'est ce qui ressort de la réunion à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron hier. Un coup au cœur pour des milliers de clients de plusieurs banques. Ils ont à tort été débités une seconde fois pour une même opération. La faute à un bug au crédit mutuel Arkéa. Les 27 se sont mis d'accord hier. Les gardiens de la révolution islamique en Iran sont désormais classés organisation terroriste par l'Union européenne. Le football, Lyon termine en tête de la phase de Ligue. De la Ligue Europa, Lille jouera les barrages et l'autre affiche sportive ce matin, c'est l'Open d'Australie avec la première demi-finale. Alcaraz, Zverev, on fait le point dans quelques minutes. Emmanuel Macron durcit encore le ton dans la lutte contre les narcotrafics. Le président a organisé une nouvelle réunion à l'Elysée hier après-midi. Autour de lui, sept ministres à qui il a demandé de renforcer l'arsenal policier et judiciaire dans la lutte contre le trafic de drogue et le démantèlement des cartels, avec de nouvelles mesures spécialement pour les Antilles. Paul Barcelone.
Pour lutter contre les narcotrafics dans les Antilles, exactement comme à Marseille. À la clé donc, un plan douane présenté d'ici un mois. Objectif muscler les contrôles dans les ports et les aéroports, avec l'utilisation de nouveaux scanners pour cibler, en plus des mules, les bagages et les frettes de marchandises. Des opérations coup de poing sont prévues dans les prochaines heures dans plusieurs avions. Mobilisation totale et massive, promet Emmanuel Macron. Pour appeler à une meilleure coopération avec les pays voisins, le président se rendra dans les Antilles prochainement, sans date connue à ce stade. En attendant, nouvelle campagne de sensibilisation, l'Elysée assume, je cite, de dire aux consommateurs qu'ils sont coupables de ce qu'il se passe en France. Lors de son dernier déplacement à Marseille en décembre, Emmanuel Macron avait annoncé le passage à 500 euros de l'amende forfaitaire délictuelle et promis l'accélération des procédures de recouvrement pour éviter les impayés.
Paul Barcelone du service politique de France Info. Des milliers de comptes bancaires débités à tort une seconde fois. Le crédit mutuel Arkéa reconnaît un incident technique dans ses services. Mardi, le bug a redéclenché des transactions déjà comptabilisées. Le problème est en voie d'être résolu. Selon les experts, les comptes sont progressivement recrédités. Les banques s'y engagent et demandent juste à leurs clients un peu de patience. Sophie Auvigne.
Des milliers de clients bancaires ont eu un choc cette semaine en découvrant que leurs comptes avaient été débités spontanément, sans être à l'origine des opérations. Que ce soit à la Caisse d'épargne, au Crédit coopératif, à la Banque populaire ou chez Boursorama. Que s'est-il passé? Eh bien, des milliers de paiements par carte déjà débités ont été redemandés. Les ordres ont été envoyés par le Crédit Mutuel Arkéa, qui reconnaît un bug dans ses services. Il est encore difficile de dire combien de clients précisément sont concernés, pour quelle somme, mais le Crédit Mutuel Arkéa promet que des équipes d'experts sont mobilisées. 98% au moins des opérations en doublon ont bien été repérées et les comptes sont en train d'être recrédités. Ce sera visible pour les clients dans les prochains jours et bien évidemment, toutes les banques concernées assurent qu'il n'y aura aucun frais pour les victimes.
Sophie Auvigne, Sébastien Lecornu déclenchera une troisième et dernière fois ce matin le 49-3 à l'Assemblée pour engager la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances après l'avoir déjà fait sur la partie recettes puis sur la partie dépenses. Le groupe Somfy, basé à Cluses, va supprimer près de 350 emplois sur 2800 en France, dont une grosse partie en Haute-Savoie. Au total, le groupe prévoit de supprimer 550 postes dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration des effectifs. Les sites français du pionnier de la maison connectée sont particulièrement concernés. L'entreprise est l'un des plus gros employeurs en Haute-Savoie et se dit victime du ralentissement du marché européen. France Info. Il est 5h04 dans le bras de fer entre Washington et Téhéran. Donald Trump espère ne pas devoir frapper l'Iran. Après avoir affirmé que le temps était compté avant une opération militaire si l'Iran n'accepte pas un accord sur le nucléaire. Les gardiens de la révolution en Iran sont aussi désormais classés organisation terroriste par l'Union européenne. Les 27 annoncent aussi des sanctions, notamment le gel des avoirs contre une vingtaine de personnalités ou d'entités accusées d'avoir joué un rôle dans la répression du début de l'année. Selon plusieurs ONG, le bilan serait de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de manifestants tués. Cette décision de l'Europe s'ajoute à la menace de cette intervention militaire américaine. Un régime iranien sous pression, mais qui promet de riposter. Agira Mohamed.
La décision de l'Union européenne est une erreur stratégique majeure, dénonce le ministre des Affaires étrangères iranien. Abbas Araghchi accuse l'Europe d'attiser le feu en désignant les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Colère donc contre les Européens, mais aussi contre les Américains. Et là, c'est l'armée qui prend le relais. Son chef, le général Amir Attami, prévient, en cas d'intervention militaire des États-Unis, la riposte sera écrasante, dit-il, quand un autre porte-parole de l'armée lui rappelle que de nombreuses bases militaires américaines dans la région se trouvent à portée de missiles iraniens. Enfin, l'Iran menace toujours de bloquer le détroit d'Ormuz, passage clé pour le transport mondial de pétrole. Autant de déclarations qui ne laissent entrevoir aucune désescalade et pourtant, le dialogue n'est pas totalement rompu. Le même Abbas Araghchi est attendu ce vendredi. En Turquie, le pays propose de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington pour éviter à tout prix une guerre qui pourrait embraser toute la région du Golfe Persique.
Ajira Mohamed, Donald Trump affirme avoir personnellement demandé à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes pendant une semaine en raison du froid exceptionnel. Et il assure que son homologue russe a accepté sa demande. La Maison-Blanche n'a pas donné d'autres détails. Pour la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, l'Ukraine est d'ailleurs confrontée à une catastrophe humanitaire à cause des températures glaciales. À Kiev, plusieurs centaines d'immeubles sont privés de chauffage après les frappes russes. Et dans ce contexte, l'énergie devient rare et précieuse, redirigée par les autorités vers les points critiques, c'est-à-dire les infrastructures vitales comme les hôpitaux. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours et certains établissements de santé doivent s'adapter. À Odessa, pour France Info, le reportage de Théo Renaudon.
Il y a un an, cet hôpital pour enfants a été frappé par un drone russe. Son générateur détruit, ses seules sources d'électricité en cas de coupure sont des panneaux solaires et des batteries, explique son directeur Sergei Verechak.
Avec ces panneaux solaires, on est très dépendant de la météo. Quand il fait beau et que les batteries sont entièrement chargées, on a environ 40 kW d'énergie. Avec un peu d'organisation, la polyclinique peut fonctionner 3 à 4 heures. Mais quand le blackout dure plus de 3 jours, là on doit faire autrement. On passe en téléconsultation ou alors on redirige les patients dans d'autres établissements.
Alors pour limiter la casse, des humanitaires fournissent des générateurs aux infrastructures critiques. Véronika Nikitina, porte-parole de l'UNICEF à Odessa.
Pour les aider, l'UNICEF a déployé une opération de soutien hivernal à grande échelle, notamment la fourniture de générateurs aux hôpitaux, aux services des eaux et aux stations de distribution d'eau.
Le manque d'électricité pousse désormais des habitants à aller dans les hôpitaux équipés de générateurs pour recharger leurs appareils et se réchauffer.
Théo Renaudon de RFI à Odessa pour France Info. Il est 5h08, le tennis avec les demi-finales messieurs à l'Open d'Australie. Et c'est Fabrice Abgral qui suit les matchs pour France Info. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz en ce moment face à l'Allemand Alexander Zverev, le numéro 3 Fabrice.
Et cette demi-finale a débuté il y a maintenant 19 minutes et pour l'instant 3 jeux à 2 en faveur d'Alexander Zverev. C'est Carlos Alcaraz maintenant qui va servir pour égaliser à 3 jeux partout. Aucun des deux joueurs n'a perdu sa mise en jeu. Il n'y a aucun des deux joueurs pour l'instant ne s'est procuré la moindre balle de break sur le service adverse. Carlos Alcaraz vise une 8e finale en Grand Chelem, la toute première à Melbourne, car jusqu'à présent, bien, il n'avait jamais dépassé les quarts de finale à Melbourne. L'Open d'Australie est d'ailleurs le seul Grand Chelem manquant au palmarès de Carlos Alcaraz. Zverev, lui, n'a jamais remporté de Grand Chelem malgré 3 finales disputées, dont une à Melbourne, c'était l'an passé, et il avait été battu en finale par Yannick Sinner. Voilà pour les enjeux, sinon c'est leur 13e confrontation, 6 victoires partout. Zverev a obtenu l'une de ses 6 victoires en Australie en 2024, c'était en quart de finale et Zverev l'avait emporté en 4-7 à l'époque, mais pour l'instant 3 jeux à 2 donc en faveur de l'Allemand.
Fabrice Abgral est la deuxième demi-finale à partir de 9h30. Novak Djokovic, actuel numéro 4 mondial, face au numéro 2, Yannick Sinner. À 5h09, la première tendance.